Europe 1, 10h, 11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour Jean-François Cannes et bonjour Justine.
Bonjour à tous, c'est Médiapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques avec Catherine Ney, donc réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et avec nous, pour la 23e émission de cette saison, Jean-François Cannes, écrivain, journaliste, fondateur de l'événement du jeudi, de Marianne, auteur d'un livre qui vient de sortir et qui part déjà très fort, qui s'appelle « Droit dans le mur » chez Plon, sous-titre « De nos erreurs et du refus de les reconnaître ». Et d'ailleurs, dans ce livre, où vous reconnaissez certaines de vos erreurs, et puis, parfois, vous nous racontez aussi certaines de vos réussites, de vos intuitions. Et là, il y a une magnifique coquille, je vous signale, sur vos intuitions. Vous écrivez à la page 66... dès décembre 2017, vous m'entendez bien ? Oui. Dès décembre 2017, j'ai montré pourquoi Macron avait toutes les chances d'être élu.
Oui. ben voilà, faut c'est...
Elle est jolie,
celle-là. Oui. C'est le plus facile à prévoir.
Voilà. Oui. Je vous dis ça, parce que comme le livre marche très fort pour les prochaines...
j'ai prévu le passé.
Réimpression, vous allez peut-être mettre 2016 à la place, voilà, j'imagine. Voilà. Bien, alors, on commence presque sur un mode Canteloup, mais c'est Canteloup qu'on écoute maintenant.
Allez, on va parler de François Fillon, qui était l'invité de Léa Salamé et Thomas Soto hier soir, dont vous avez la parole sur France 2. Bonjour François Fillon.
Oui, bonjour Madame Julie. Avant tout, je voulais dire une chose, j'aime ma femme. Et malheureusement, vous le constatez aujourd'hui, ma femme, vous l'avez vu, n'a pas pu venir hier à l'émission pour une raison évidente, Pénélope travaillait.
Alors, pourquoi avoir choisi cette émission pour vous exprimer à 3 semaines de votre procès ?
Écoutez, je ne savais pas qui choisir comme intervieweur. Et puis j'ai eu Carlos Ghosn au téléphone qui m'a recommandé vivement de prendre Léa Salamé. Il m'a dit, vous verrez, cher François, elle pose des questions plutôt sympathiques, elle vous met pas en difficulté, elle offre le champagne, on peut même négocier un massage des pieds pendant certaines questions. Bon, à partir de là, mon choix a été évident et vous avez vu, j'ai eu raison, on n'a pas appris grand-chose.
Ah ben vous avez quand même parlé de votre nouvelle vie dans la finance, comment ça se passe d'ailleurs ?
Oui, écoutez, j'assume totalement cette position. J'ai décidé d'abandonner la politique pour me consacrer à ma passion, l'argent. Vous savez, ça fait du bien à un moment donné de faire son coming out, de sortir du placard, de s'assumer complètement. Ouais. Vous savez, dans le public, on vous emmerde quand vous avez du pognon, alors que la vraie différence dans le privé, c'est qu'avec du pognon, on vous admire. Et ça me correspond mieux, je trouve.
Donc ça, c'était à sa manière la critique de Nicolas Canteloup sur l'émission Vous avez la parole, vendredi, hier matin sur Europe 1. Et écoutez maintenant, c'était d'ailleurs vendredi sur Europe 1 aussi, un peu avant, invité de Sonia Mabrouk, le commentaire de Yannick Jadot.
Ce n'est pas le rôle du service public que de participer à une campagne de promotion. François Fillon, qui n'arrête pas de dire « je veux être jugé comme un citoyen lambda », il organise une campagne de promotion de sa vie, tout ça, juste avant son procès. Je trouve qu'on a autre chose à parler que de François Fillon.
Alors voilà un vrai débat média-politique. Est-ce qu'il était tout à fait légitime et normal de faire une spéciale avec Fillon quelques semaines avant son procès, ou est-ce que c'était critiquable ?
Moi, je ne critiquerai pas. En tout cas, c'est François Fillon qui avait envie de parler. Ce n'est pas ses conseillers qui lui ont dit de parler. C'est parce qu'il porte en lui cette douleur et peut-être cette peur à l'approche d'un procès. Et il avait besoin de s'expliquer devant les Français, alors qu'il le dit, il a quitté la politique et pour toujours. Il est dans une autre vie aujourd'hui. Mais il voulait dire qu'il a tellement été maltraité que dans le fond, il est la victime du parquet national financier. Et pour appuyer ses dires, on peut dire que nos deux confrères, Davé et l'homme du Monde, qui viennent de publier un livre sur la droite, Apocalypse Now, et qui parle beaucoup de Fillon, le disent, et qui était tout à l'heure l'invité de Patrick, le disent. Moi, je dis que dans ce livre, il y a au moins 2 chapitres qui pourraient être versés au dossier du procès pour montrer que quand même, eux-mêmes le disent. On a maltraité Fillon.
Et je veux dire, les juges ont été... Sur la question médiapolitique, est-ce qu'il fallait faire cette émission ou pas ?
Non, ouais, franchement, je trouve la réaction de Jadot complètement idiote. Là. Alors là,
bah oui.
Bien sûr que c'est... Évidemment que si on a l'occasion de d'interroger pour l'interroger. Je vois qu'il n'est pas revenu sur le cabinet noir. Hein. Ça, je note qu'il n'est pas revenu. Il avait dit je dirai tout, je sais tout sur le cabinet noir. Il n'est pas revenu là-dessus. Mais moi,
je voudrais juste un instant développer le point de vue contraire, puisque vous êtes d'accord tous les deux.
Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas soutenir quand même que, à partir du moment où vous l'invitez comme ça, juste avant le procès, d'abord, vous êtes obligé de consacrer une immense partie de l'émission à ça, ce qui a été le cas, et vous êtes presque obligé de vous mettre en situation de procureur, puisque lui ne va pas cesser de développer son point de vue. Or, le métier de journaliste, c'est pas d'être procureur, c'est d'exposer les faits dans leur...
D'un partir du moment où il accepte, il le sait ou il accepte. Il le sait bien, vous avez tout à fait raison, mais il le sait, il accepte, donc allons-y.
Il accepte, et puis moi je trouve que nos confrères ont très bien fait leur métier, ils ont posé les questions qu'il fallait poser, puis lui, il est dans sa logique éternelle, qui est de dire, mais non, ma femme avait un vrai emploi, et elle a travaillé auprès de moi depuis que j'ai été élue, et elle fait un travail sur le terrain, alors j'ai des preuves, et le juge qui a enquêté, le juge Tournaire, en l'occurrence, que tout le monde connaît, pour quand même sa partialité.
Sa ténacité, à tout le moins.
Oui, à tout le moins.
À tout le moins.
Bon, et il dit qu'il n'a même pas lu le dossier. Donc, voilà,
Ok, on passe au point suivant. Bon, si vous voulez bien. Allez.
Ce que je voulais faire une remarque, c'est qu'on dit, après le fiasco électoral, l'échec électoral, ce qui est incroyable, ce qui est extraordinaire quand on y réfléchit, c'est qu'avec toutes les révélations qui sont accumulées et qui sont pires que scandaleuses, qui sont ridicules, et ça tue le ridicule, toutes auraient dû l'anéantir. Oui. Il fait 20%. Oui. Il fait 20%. C'est incroyable qu'il fasse 20%. Ce qui fait que si ça n'avait pas été lui, le candidat, si ça avait été Sarkozy, et franchement, vous ne soupçonnez pas d'avoir une sympathie très grande pour Sarkozy.
Non, il n'y a pas de risque.
Si ça avait été Sarkozy ou Juppé, ils étaient élus. Parce qu'ils n'avaient pas ça. Ils étaient, d'une certaine manière, ils étaient élus. C'est incroyable. On a oublié que c'est inouï.
On peut dire que le parquet national financier a tué le débat, le droit de gauche. Voilà.
Bah, je ne dis pas le... Non, parce que
est-ce que vous êtes d'accord avec la
thèse de
cabinet ?
Parce que je pense qu'il a effectivement fait ce qu'on se lui a reproché de faire. Alors, il n'y a pas de cabinet noir.
Juste dernière question avant la pause. Il fallait que les juges fassent leur travail, même agressivement, en pleine campagne, ou il fallait qu'ils suspendent parce qu'on était en campagne ?
Alors ça, c'est un vrai...
Oui, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat.
Maintenant, on peut dire qu'il était important que les électeurs sachent tout ça, parce que ça leur révélait un Fillon qu'ils ne connaissaient pas et qui existe, qui est vraiment Fillon aussi.
Et pendant ce temps-là, l'histoire continue avec un autre Premier ministre qui cherche un autre destin électoral. Le suspense est faible, il sera complètement levé dans 2 minutes.
Europe 1. Mediapolis.
Jusqu'à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ils sont accompagnés ce samedi par Jean-François Kahn, fondateur de Marianne et auteur de Droit dans le mur, sorti récemment aux éditions Plomb.
Et par Édouard Philippe, que l'on écoute.
J'étais maire, avant de devenir Premier ministre. Ma seule ambition politique, c'est d'être maire du Havre, quand cette mission s'achèvera. J'ai connu des premiers ministres qui avaient d'autres ambitions politiques. Pas moi.
Et on retrouve, pour lancer le débat, ce cher, si cher à Catherine Ney, Yannick Jadot.
Qu'un premier ministre considère qu'il a autre chose à faire que de gérer les dossiers de la France pour devenir candidat à une élection municipale où il dit déjà qu'il n'occupera pas les fonctions de maire, je trouve ça profondément scandaleux.
Hier matin, dans la matinale d'Europe 1, profondément scandaleux. Jean-François Kahn.
Alors, admettons que ça soit scandaleux. Le problème, c'est que de toute façon, ils trouvent tout scandaleux. Mais admettons que ça soit scandaleux.
Pour quelle raison ?
Non, mais admettons. Bah si, il le dit, parce que il dit je suis tête de liste, et je vais être élu, et donc, mais je ne serai pas maire, j'attendrai. On peut considérer que c'est scandaleux.
Scandaleux, Chirac, le terme me semble
Chirac
un peu
a
fort,
fait la même chose.
Enfin, non, si on cherche à trouver des termes adéquats et à pas, à chaque fois, mettre un peu d'huile sur le feu, il me semble qu'on pourrait dire critiquable, mais scandaleux,
ça, je vous ai dit, de toute façon, il trouve tout scandaleux. Oui. C'est le mot, ça revient. Mais il y a une autre chose qui est scandaleux. Et il y a un moment, il faudra quand même le dire. Il y a quand même, veut le dire. C'est qu'il fait une campagne, il fait un meeting électoral Hein, il y a une élection, un meeting électoral, c'est la démocratie. Et vous avez des mecs qui manifestent pour empêcher de faire son meeting électoral et qui disent « Vous n'êtes pas le bienvenu au Havre ». Mais c'est aux électeurs de dire s'il est bienvenu. C'est pas un petit groupe de manifestants de droite, de gauche, du centre, de dire « On se substitue aux électeurs et nous on vous dit « Partez, vous n'êtes pas le bienvenu ». Il y en a marre de ça. Moi, il y a un temps, on attaquait les permanences communistes. Et moi, j'étais manifesté contre le fait qu'on ait attaqué des permanences communistes. Bon, et maintenant, on attaque des permanences de députés parce qu'on n'est pas d'accord avec
donc
la façon dont ils votent,
pas
et on trouve
de...
ça très bien. Et j'étais contre quand l'extrême gauche a manifesté pour empêcher l'extrême droite de faire des mini-gigs électoraux. Oui. Ça suffit, ces méthodes.
Donc,
ça suffit.
Donc, si on est... donc, vous n'arrêtez pas d'aller en province partout pour manifester devant toutes les manifestations.
Non, mais je devrais.
C'est ce que j'en dis.
Finalement, raison.
Je
oui.
ne le fais
finalement,
pas.
Tous ces
oui.
manifestants
je
vous critiquez.
Je oui. dire,
ils font le plus grand bien parce qu'ils vous chauffent l'adrénaline.
Arrêtez que les journaux de gauche, entre autres, les républicains, les démocrates, se taisent et ne disent pas que tout ça à quoi on assiste, c'est une espèce de terreur. C'est inacceptable, quoi qu'on pense, même si on hait Macron. Je ne l'ai jamais accepté, je ne l'accepterai jamais. C'est impossible d'accepter ça.
Mais attendez, vous ne pouvez pas exactement... Enfin, à chaque fois, il faut que je cherche, moi, à défendre un point de vue différent, qui n'est pas forcément le mien. Mais vous ne pouvez pas mettre exactement sur le même plan des manifestants qui manifestent contre Édouard Philippe et des gens qui vont saccager des permanences ou des maisons. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas le droit à la violence
c'est
physique,
le fait qu'ils
on a
disent,
le droit à la manifestation.
C'est le fait qu'ils disent... partez du Havre, vous n'avez rien à faire au Havre, vous n'êtes pas de... Je veux dire, c'est aux électeurs de le décider.
Oui,
c'est la même chose
façon,
d'empêcher quelqu'un de présenter ses vœux. C'est la même chose d'empêcher, encore une fois, des milliers électoraux. C'est la même chose que de courser des gens quand ils vont au cinéma. Moi, je veux bien. Si je fais ça, moi, pour tous les gens que j'aime pas, vous imaginez, vous et vous, il y a encore une société possible. C'est même pas qu'on le fasse qui m'indigne. C'est le fait que des gens... qui sont normalement des grandes âmes, qui donnent le droit, qui disent la République, qui disent la démocratie, se taisent. Ça, c'est très grave.
Ah, il n'aime pas les grandes âmes, Jean-François Kahn d'ailleurs. Son livre est truffé de critiques des grandes âmes, souvent bienvenues. Juste une petite question sur un sujet qui n'a rien à voir. Dans votre livre, à mon avis, qui n'est que le mien et qui ne m'engage que moi, vous critiquez à très juste titre, d'une part, l'intervention française et anglaise, etc., en Libye, mais
et
d'autre part,
la,
oui, mais là, je me suis oui. sur un instant sur la Libye, et ensuite sur l'absence de réflexion, d'échange, de débat, de commission d'enquête en France, alors qu'il y en a eu, par exemple, au Royaume-Uni. Mais ma question est, au moment où a été décidé l'action militaire en Libye. Est-ce que vous vous étiez élevé contre ?
J'ai écrit contre.
Oui.
Votre émission est sur les médias.
Oui.
J'ai écrit contre.
Oui.
En l'occurrence, c'est un article qu'a publié Libé. J'ai eu du mal.
Oui.
À ce moment-là, tout le monde était pour, parce que,
oui.
comme vous le savez, la gauche était pour, la droite était
absolument.
Pour. Et sur les médias, on entendait tout le monde qui était pour. Pour une fois, j'ai téléphoné, moi, à des radios et à des télés. J'ai dit, écoutez, moi, je suis contre, je pense que ça va être une catastrophe. Est-ce que vous me permettez de l'exprimer ? Aucun ne m'a permis.
Ça,
je n'ai pas pu l'exprimer sur aucun média.
Je suis content d'avoir fait cette interruption sur l'autre sujet.
Vous avez raison.
Oui, parce que c'est quand même très très significatif. Que, quand même, depuis, franchement, on va y aller vite. Mais la guerre au Vietnam, fiasco. La guerre en Irak, deuxième, fiasco. La guerre en Afghanistan, fiasco. Qu'on ait encore eu un tel consensus et une telle impossibilité d'écouter
tout.
Vraiment des voix dissidentes après tout ça... Ça pose un vrai problème
c'est
sur la
C'est tout le sujet
de
mon livre, c'est que le problème de l'erreur, moi aussi j'ai commis des erreurs, vous en avez commis, tout le monde en a commis, c'est le fait que si on ne les reconnaît pas, si on ne regarde pas en face, on les recommet, on les recommence. Et en effet, on n'a pas reconnu l'erreur de l'Irak, du coup on recommence à Libye, et
alors
on va recommencer.
C'est un beau sujet d'erreur pour vous, un beau sujet d'une erreur de la part du mouvement La République En Marche. Et là, comme il y en a pas mal... C'est un suspense de savoir duquel je parle dans quelques minutes.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec aussi le journaliste Jean-François Kahn, qui vient de se sortir aux éditions Plomb, Droit dans le mur.
Oui, et avec sous-titre de nos erreurs et du refus de les reconnaître. Alors, des erreurs sur Paris, LREM, c'est quand même pas mal. Écoutez, peut-être que vous reconnaîtrez la voix.
Comme toujours avec le président de la République, la conversation fut agréable. Mais aujourd'hui, j'acte une divergence majeure. Entre l'appartenance à un appareil politique et la fidélité, l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement. Je sais ce que je dois au président de la République. Je sais aussi ce que je dois aux citoyens, aux Parisiennes et aux Parisiens qui m'accordent leur confiance. Ma campagne continue en toute indépendance.
Ça, c'était dimanche dernier sur Europe 1, et c'était Cédric Villani, le candidat En Marche, désormais ex-En Marche, qui n'a pas voulu retirer sa candidature devant celle de Benjamin Griveaux, le candidat officiel d'En Marche, à la sortie de l'Élysée, oui. Après un entretien avec le président de la République.
Ah oui, mais le président espérait remettre de l'ordre, toute son autorité, et voilà, et là c'est raté. Et donc, alors que depuis longtemps, les proches du président lui disaient « Écoutez, il faut remettre de l'ordre à Paris et à Biarritz. » Et donc, il disait « Mais moi, je ne veux pas m'occuper des municipales. » Et là, il s'en occupe enfin, mais peut-être un peu tard, en tous les cas, pour Paris. Sur Biarritz, il a réussi parce que les deux ministres s'en vont. C'est le jugement de Salomon, tout le monde pareil. Mais Villani, on ne l'imaginait pas ayant ce caractère.
D'abord, c'est plus facile quand il y a deux ministres, parce que vous pouvez leur dire « Vous obéissez, vous dégagez du gouvernement. »
Mais lui, d'ailleurs, quand vous écoutez le son de sa voix... Moi, je ne me souvenais pas d'un timbre de voix aussi musclé, décidé. Bon. Et donc, ben voilà, et donc là, c'est pas réglé du tout. Et malgré ça, Benjamin Griveaux continue d'appeler Villani en vain, parce qu'il ne répond pas à ses coups de téléphone, en espérant toujours le ramener à la raison. Et puis, comme maintenant, il est exclu, on l'a exclu, fallait-il l'exclure? Il y a eu débat aussi chez les En Marche, en disant qu'on n'exclut pas. Et il est exclu, donc... Il va continuer sa route, mais je crois qu'il handicape fortement l'élection de Benjamin Griveaux.
Et pour Macron, c'était une erreur d'avoir cet entretien après tout, il fallait bien essayer.
Il croyait que ça allait marcher. D'abord, la première erreur, c'est que quand le point a révélé les propos de Griveaux sur son entourage, sur ses amis, etc., des propos incroyables, ils auraient dû le virer. Ils auraient dû le changer. Qu'ils l'aient gardé à ce moment-là, alors qu'il s'était plombé. Quand il a dit celui-là, c'est, je sais pas, qu'il a pas de couilles, celui-là, il est nul, celui-là, c'est un crétin, etc. Ils auraient dû le virer. En ce qui concerne Villani, il y a quand même un problème, si vous me permettez.
Mais oui.
Il est député de l'Essonne, et je pourrais élargir le problème. Il est député de l'Essonne. Des gens lui ont fait confiance, des électeurs. Si on fait votre député, pour 5 ans, vous êtes député. Et le mec, il dit ah non, vous n'êtes pas digne de moi, je veux être plus haut, je me présente. À Paris. Et il y a d'autres types de La République En Marche qui ont fait ça. Mmh. On les élue pour députés, on leur fait confiance pour 5 ans et dit « Ah, mais non, je me barre et je veux essayer d'être maire. » C'est insupportable aussi, ça. C'est quelque chose que je trouve ça. Alors, vous me direz que Chirac l'a fait, mais Chirac peut faire les deux.
Oui.
C'était ridicule, mais il pouvait faire les deux. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les deux. Donc, il va leur dire « Ciao les mecs, vous m'avez élu, je vais sur Paris. » Moi, je n'accepte pas ça.
Mais moi, je me souviens quand Jacques Chirac était Premier ministre de la première cohabitation, il était le matin à Matignon et le soir, il revenait à la mairie de Paris où il habitait toujours. Et c'est-à-dire qu'il cumulait les deux... Et il était en même temps député de Corrèze.
Enfin, aujourd'hui, on ne peut plus.
Oui, ah ben ça, on ne peut plus. Non, mais alors... je vois quand même que Jean-François Kahn, vous voyez, qui trouve que les manifestants vraiment... devant une réunion, ça ne va pas, et que les députés doivent au moins ne pas trahir leur... Moi, je trouve que vous êtes un homme d'ordre. Et je ne vous connaissais pas sous ce jour-là.
Et ça vous réjouit, hein,
et ça ne me réjouit pas, c'est un constat.
Ah, c'est un constat, d'accord, je me suis trompé, excusez-moi. Et vous aviez un tel sourire en disant ça.
Mais non, mais ça m'amuse.
Je suis tout à fait un homme d'ordre. Oui. D'un ordre juste.
D'un ordre juste, comme dirait, rappelez-moi son nom.
Ségolène Royal, pour ceux qui étaient trop jeunes pour se souvenir de la campagne présidentielle de
Vous avez 2007. Vu le sondage du Point ?
Oui.
Elle est un des rares dont les gens pensent qu'il ferait mieux que de Sarkozy.
Pas du tout.
À gauche.
Non. D'abord, il ne s'agit pas de savoir si on fait mieux que Sarkozy, mais que Macron.
Pardon, qu'elle ferait mieux que Macron, excusez-moi. Oui. C'est une des rares dont les gens pensent qu'elle ferait mieux que Macron.
Non, à gauche.
Peut-être. Si, à gauche.
À gauche.
Oui.
Ah oui, mais pas dans l'ensemble des
Français. Non, mais à gauche, elle est donc peut-être la meilleure candidate à gauche, qui l'aurait cru.
Ben pourquoi, vous avez mis au magasin ?
Ah ben non, votre constat, en effet, est intéressant.
Non, mais moi, j'en sais rien. Ce qui me frappe beaucoup, à 2 ans de l'élection présidentielle, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous voyez la possibilité d'une émergence à droite, Bertrand, Baroin, vous ne voyez pas aujourd'hui la possibilité d'une émergence à gauche.
C'est très juste. Il n'y a qu'elle.
Ce qui est un paradoxe, parce que l'espace à droite est quand même très restreint, hein, maintenant, entre Macron droitisé et Le Pen dédiabolisé. Et l'espace à gauche, il est considérable, Macron droitisé et Mélenchon démonétisé.
Mais j'irai plus loin. Là aussi, bizarrement, personne ne fait cette remarque. Tout le monde dit il ne faut pas se résoudre. Enfin, tout le monde, non. Il y en a. Mais certains, à droite et à gauche, il ne faut pas se résoudre. On est qu'on soit condamné à un face-à-face Macron-Le Pen. Hein très bien. Moi, je dis des cons. Vous pouvez les répéter. On ne veut pas. Faut pas. C'est pas bien. Faut pas. C'est pas bien. Faut pas. Alors, les mecs, allez, trouvez une alternative. Il y en a marre de dire allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous proposez? Prenons la gauche. Si la gauche, comme du temps de Mitterrand, faisait un candidat unique avec les écologistes, il serait un second tour. Et il n'y aurait pas Macron. Bien donc sûr. C'est de leur faute, c'est eux qui sont assez cons pour que ce soit finalement qu'on soit condamné à Macron, Le Pen. C'est ça qui est incroyable.
Vous savez, c'est vraiment un des signes de la crise, j'aime pas ce mot un peu passe-partout, mais je n'en trouve pas d'autre à la seconde, de la démocratie et de la politique en France. Vous avez les deux tiers des Parisiens qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas que Anne Hidalgo sera réélue et sera très probablement réélue.
Absolument.
Vous avez entre les deux tiers et les trois quarts des Français qui ne veulent pas d'un second tour Le Pen
et
Macron.
Il y aura peut-être.
Et il est plausible, en tout cas possible. Oui, mais quand vous avez une offre électorale qui ne plaît pas aux deux tiers des électeurs, c'est un problème qui n'existait pas autrefois. Les gens étaient très contents d'avoir à choisir entre Giscard et Mitterrand.
Ouais, non, non, mais c'est juste votre remarque.
Oui, mais cette fois, tous les sondages le disent, les électeurs de la France insoumise, parce que plus personne ne pense que Jean-Luc Mélenchon pourrait faire un score enviable à la présidentielle, se disent prêts à voter pour Marine Le Pen. C'est-à-dire, alors est-ce qu'elle...
De toute façon, les mélenchonistes, ils disent... c'est un scandale, il n'est pas légitime Macron parce qu'il a fait 24%. Très bien. Moi j'ai toujours été contre ce système, Catherine Ney peut en témoigner, c'est une de mes obsessions dans la vie. J'ai toujours été contre ce système électoral qui fait qu'avec 24% ou Chirac avec 19% de la majorité des sièges. 24%. Mais eux ils considèrent...
On n'a pas la majorité des sièges, on est sélectionné pour un second tour où les gens, où il faut
encore passer les 5 ans. Mais eux ils considèrent qu'à 6% on doit être au pouvoir.
Bien envoyé Jean-François Cannes, très bien envoyé. Et pendant ce temps-là, le mouvement social est terminé. Eh ben non, vous allez voir dans 2 minutes.
Europe 1.
Médiapolis. De 10h à 11h, vous écoutez Médiapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Ils reçoivent ce matin le fondateur du magazine Marianne, Jean-François Cannes, qui vient de publier Droit dans le mur aux éditions Plomb.
Et sur le mouvement social qui, en termes de manifestants et de grévistes, s'effiloche de plus en plus, mais pas forcément en termes de violence verbale ou d'action ponctuelle ici et là, écoutez Laurent Berger qui faisait lundi un peu écho aux propos de Jean-François Cannes en début d'émission.
Qu'on soit pas d'accord sur un projet de réforme, après tout, c'est bien normal en termes de démocratie. Mais ce type de propos extrêmement insultants, je crois qu'il faut les condamner. Aujourd'hui, on est arrivé dans un moment de folie collective. Je le dis très clairement, dans un moment de folie collective. Quand on regarde les attaques des uns et des autres, par exemple sur les réseaux sociaux, on est chez les dingues. Je le dis, on peut être en désaccord et ne pas se considérer en guerre. La guerre, c'est autre chose.
Folie collective, on est chez les dingues. Vous qui avez quand même une bonne connaissance de notre histoire politique, Jean-François Cannes, alors évidemment sans remonter aux épisodes les plus violents de la dite histoire, mais par exemple sous la Ve République, c'est assez rare de s'être retrouvé dans une situation de ce type, non ?
Ah oui, c'est tout à fait ce type de violence, jusqu'à brûler des restaurants parce que celui qu'on n'aime pas le fréquente, vous imaginez. courser quelqu'un partout où il va, à la messe, au football, etc. Enfin, que sais-je.
Au théâtre.
Le théâtre, la violence du ton, l'injure, les menaces de mort. Alors ça, c'est les réseaux sociaux, ils font quelque chose. C'est quelque chose tout à fait exceptionnel. Mais vous savez, vous parlez le mouvement social. Le mouvement social, puisque je parle de l'erreur, le mouvement social a échoué aujourd'hui. Il avait tout pour gagner.
Social, CGT, FO, grève dure, voilà. FSU.
Il a retraite. Échoué, c'est pas la peine de raconter de là. Il a échoué, bon. Mais il avait tout pour réussir. Il était populaire, la retraite, c'est traumatisant, etc. Le nombre d'erreurs qui ont été commises. Les mecs, ils font une manif. Ils sont près d'un million, c'est formidable. On n'avait pas vu ça depuis 3-4 ans. C'était un succès, ils avaient cette arme. 3 jours avant, après, même avant d'attendre que le Premier ministre dise qu'est-ce qu'il y a dans la réforme, ils en refont une autre. C'est absurde, il n'y a aucune raison. Ils ne sont plus que 400 000, donc leur arme est émoussée. Vous avez les vacances. Ils auraient dit, on arrête parce que quand même on respecte le public, les vacances, on ne fait pas grève. Mais alors, si par hasard, vous ne profitez pas de ces 15 jours pour ne faire des concessions majeures, là on reprend, etc. Et ces crétins, ils continuent pendant les vacances, ils disent on continue. Donc évidemment, ça s'émousse, ça fout le camp, etc. Ils sont fatigués à la fin. En plus, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce gouvernement ne nous concerte pas, il ne gouverne pas. Et ils disent, On veut pas négocier, c'est innégociable. Ah, mais c'est pas négociable, vous pouvez pas lui reprocher de pas négocier. Et en plus, on les voit autour de table, il est en train de négocier. Tout ça est absurde.
Mais vous voyez,
ils ont conduit ça de façon. C'est incroyable la façon dont ils ont conduit ça. C'est des stratèges nuls. Nuls.
Oui. Vous devriez mettre de l'ordre et donner des conseils. Vous devriez
Moi, je pense que la contestation, ça s'organise. Moi, je suis de cette génération. On organisait les contestations et voilà, et on les réussissait.
Reste que c'est difficile d'arrêter, de savoir comment on termine un mouvement quand on a échoué. C'est difficile.
Mais regardez le grève. Alors, ça aussi, personne n'a remarqué. La grève du métro, gros succès. Les mecs, ils font une grève réussie. Et le syndicat majoritaire dit on arrête et ils arrêtent. Ça, c'est une grève réussie. Je vous signale que la grève dans le train, il n'y a plus personne qui fait grève dans le train, alors que la CGT continue à dire qu'ils sont en grève. Mmh. Ça, c'est un échec.
Et qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, en plus, tous les conducteurs qui font grève.
Une partie, hein, pas la totalité.
Une partie. Pas la totalité, mais une bonne partie. Alors,
une partie. Vraiment. Oui, vous savez, enfin bon.
Oui, ah bon. Que savons-nous?
Non, les cheminots, c'est un peu particulier, les cheminots. Les cheminots, on leur a
fait particulier.
Non, les cheminots, on leur a fait une réforme en 2018, et là, on leur a dit, oui, ou en tout cas, ils ont cru entendre tellement ça semblait être ça, et pour ceux qui sont en place, on ne touchera pas au statut. Et puis, un an après, on fait une réforme des retraites, et on dit, ah ben, comme c'est universel, on va toucher à votre statut. Ah bah,
C'est pour ça que j'ai dit qu'ils avaient tout pour gagner et que c'est inconcevable qu'ils aient échoué
leur mouvement. Ils ont obtenu beaucoup de concessions.
Alors, puisque vous parlez d'erreur, est-ce que vous estimez que d'avoir lancé cette réforme des retraites systémique un an après les Gilets jaunes, est-ce que le président Macron risque de le payer très cher? Est-ce que c'est une erreur?
Normalement, je ne sais pas, mais en effet, il risque de le payer cher. Je crois qu'on a. C'est surtout de faire une soi-disant concession pendant 2 ans et demi.
Des concertations pendant
2 ans et demi. On est parti, parce que c'est leur culture, comme s'il faut faire comme la Suède. La Norvège. Eh oui, mais la France, c'est pas la Suède et pas la Norvège. Oui.
En plus, ça a duré 10 ans.
Et en Suède et en Norvège.
Ça a duré 15 ans.
Et si vous faites ça en France, ça donne l'impression qu'on sait pas où on va, qu'on s'est flou, que c'est ça.
Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, ah, vous allez voir, c'est joyeux.
Europe 1, Médiapolis.
Le journaliste et fondateur du magazine Marianne, Jean-François Kahn, et votre invité, Olivier Duhamel et Catherine Ney, dans Médiapolis ce samedi.
Vous savez qu'Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement de l'Institut Montaigne, surveille pour nous les médias internationaux et nous propose à chaque fois un sujet pour Médiapolis. Et là, il s'agit d'un article du New York Times en date du 28 janvier et qui concerne la réaction de Trump, je cite, cette semaine, à la fuite du livre de Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale, dont des passages comportent des détails qui incriminent le président. Ça a choqué un journaliste du New York Times, surpris non pas par les détails liés à l'Ukraine, qui ne choquerait désormais plus personne aujourd'hui, mais par le fait que le président conteste connaître si intimement Bolton. C'est pourtant le stratagème préféré de Trump. Demandez à Michael Cohen, Anthony Scaramucci, Prince Andrew, Stormy Daniels, Gordon Sondland ou encore Lev Parnas, ridiculiser Trump, énerver Trump, et vous serez effacé de sa mémoire, peu importe les faits.
C'est ce passé en Union soviétique.
Bolton est la star de la mise en accusation de Trump.
Oui, mais on les effaçait définitivement.
Bolton est la star de la mise en accusation de Trump cette semaine, qu'il finisse par témoigner ou non. Il a toujours été vain, brillant, impitoyable, et il est tout à fait envisageable qu'il ait comploté pour fuiter son livre, enfin, en tout cas, agi pour faire fuiter son livre, et mettre Trump en difficulté. Là où Bolton est très fort, c'est que Trump a peu d'arguments cette fois-ci pour se dédouaner des accusations qui lui sont faites. Pas de conflit lié au parti pour Bolton, les références conservatrices de Bolton prouvent son alignement total avec Trump, il ne peut pas s'appuyer non plus sur l'argument du deep state de l'État profond, puisque les hommes d'État, celui des hommes d'État que Trump a dû subir malgré lui, Bolton est un homme qu'il a choisi lui-même, un ami même, qu'il a décidé de placer à ses côtés. Fin de citation du New York Times. Et le lendemain, j'ajoute, l'extrait du tweet de Trump, puisque Trump fonctionne par tweet, y a Guillaume Debré qui publie un livre à partir de ça, et qui sera notre invité la semaine prochaine. Extrait du tweet, « Frankly, if I listened to him, we would be in World War VI by now. » Franchement, si j'avais écouté Bolton, on en serait à la 6e guerre mondiale.
Ce qui d'ailleurs est vrai, d'une certaine manière.
Mais attendez, oui, mais comment vous pouvez dire... D'accord, mais, non, alors, mais comment vous pouvez l'avoir choisi fois, comment vous pouvez l'avoir choisi à ce moment-là?
Ah oui, non, ça c'est votre remarque, c'est absolument.
Oui, c'est
absolument.
Ma remarque et je la maintiens.
Absolument. Oui, oui. Bon.
Ce qui reste mystérieux, c'est que, pour moi, sur, comment dire, des moments où la média politique ne produit rien, si je puis le dire comme ça, c'est la première fois dans l'histoire qu'un président est empêché, parce qu'aux États-Unis, quand vous êtes en procès, vous êtes empêché, et après, vous serez condamné ou pas. C'est la première fois qu'un président en exercice est empêché en campagne électorale. Et à l'heure actuelle, ça n'a pas d'effet, ni sur les sondages entre les démocrates, ni sur la popularité ou l'impopularité de Trump. Ça n'a pas d'effet. C'est stupéfiant.
Comme dirait mon ami Olivier Duhamel, c'est la gloire au pitre. C'est
la,
ça.
La pape.
La pape.
La prime au pitre.
Voilà.
Dans le populisme, il y a la pape, c'est la prime au pitre. Mais il n'a pas tellement de prime. Ça ne lui nuit pas, mais il n'a pas tellement de prime. De prime, c'est
j'ai
ça.
J'ai fait oui. Dans le temps, j'avais fait. Je préparais un livre que je n'ai pas fait d'ailleurs. Et j'avais été enquêté dans les archives russes soviétiques, en particulier sur les photos, pour des photos. Et j'étais incroyablement, j'étais fasciné par, il y avait les photos avant, sous Staline, et après. Et à quel point les personnages disparaissaient, effaçaient sur la photo. Là, vous aviez un mec, et tout le coup, il n'y était plus, parce qu'entre-temps, il avait été dégradé, etc.
Vous envoyez au goulag
Non, mais même, c'était surtout... Parce qu'on voyait au goulag, ça, c'est la dictature, mais le retirer de la photo, c'est ça qui m'avait frappé, c'est un peu ça. Donc voilà, je vous signale... je le dis en passant, j'en profite parce que simplement vous permettez d'en profiter.
J'en prie.
C'est que ce qu'a fait surtout Trump, c'est le plan sur la Palestine.
Oui, bien sûr. Oui.
Ce dont on est en train de s'apercevoir, vous allez voir, c'est sans doute l'initiative la plus hostile à Israël qu'on ait pris, et aux Juifs qu'on ait pris depuis longtemps.
Pourquoi?
C'est un peu long à dire. D'abord, parce que jusqu'à présent, les antisémites, et Dieu sait que c'est très grave aujourd'hui la montée d'antisémitisme sous prétexte antisioniste, jusqu'à présent, vous montrez des caricatures de juifs, c'était horrible. Maintenant, ils vont vous montrer la carte. Ils vont vous montrer la carte. Alors, vous voyez, regardez cette carte. Horrible, incroyable, inouïe, avec des machins, ces hachures, trucs. Ils vont dire, c'est ça qu'on donne à un peuple, etc. Ça va être terrible. Et pour le reste, comme maintenant, il n'y a plus deux États, on va en faire qu'un. Hein, et pourquoi pas, d'ailleurs, Israël. Donc, du même coup, il faut les droits civiques à tout le monde. Donc, tout le monde a le droit de vote. Et si tout le monde a le droit de vote, alors les Arabes peuvent devenir majoritaires. Donc ils ne donneront pas. Et s'ils ne donneront pas, la force d'Israël, qui est un État démocratique, risque de s'effondrer.
Oui, mais
et
vous savez
terrible.
Qu'en Israël, dans les territoires occupés, au-delà de Jérusalem-Est, il y a 1500 Palestiniens qui ont demandé à devenir citoyens israéliens et ça a été accepté. Maintenant, les Israéliens acceptent.
Oui, mais ils n'acceptent pas tous. S'ils acceptaient tous, ce serait formidable. C'est sans doute la solution, d'ailleurs. Ils n'accepteront pas. Ils ne pourront pas accepter qu'ils soient majoritaires.
Et pendant ce temps-là, un petit peu moins loin, mais de l'autre côté des Alpes, dans quelques minutes, deux minutes.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney qui ont comme invité ce week-end Jean-François Kahn, le fondateur de Marianne, qui vient tout juste de publier aux éditions Plomb, Droit dans le mur.
Aux États-Unis, Trump tweet, à Bologne, on chantait. C'était donc entonné par 40 000 sardines, le chant Bella Ciao à Bologne le 19 janvier et dimanche dernier, élection, Salvini labourait le pays depuis des mois, il a fait en moyenne 7 meetings par jour, il voulait en faire un test national pour faire tomber ce fief de la gauche et il a échoué. Et il y a trois chiffres importants. Celui que tout le monde connaît qui fait que le Parti démocrate est arrivé assez largement en tête. Il y a un second chiffre au moins aussi important qui est l'effondrement du mouvement 5 étoiles, comme s'il n'y avait pas place pour deux partis populistes et presque comme si le mauvais chassait le bon. Et comme on disait que la mauvaise monnaie chasse la bonne, le mauvais parti populiste chasse le bon, entre guillemets. Et le troisième chiffre, peut-être le plus extraordinaire au sens étymologique du terme, extraordinaire, c'est que la participation aux élections régionales en Émilie avant était de 37% et elle est passée à 67%, c'est-à-dire 30% de plus, notamment à cause de ce mouvement, ou grâce à ce mouvement des sardines, qui a conduit des jeunes à aller voter.
Il y a un quatrième chiffre. C'est que malgré tout, Salvini a fait son parti, a fait quelque chose comme 30, 33, 34%.
Non, même plus, oui, 41.
Ou 36% des voix, ce qui est un score énorme. Mais voilà l'erreur. Beaucoup d'erreurs, c'est un pas de trop.
Oui.
L'erreur de Napoléon, qui l'a tué, c'est qu'il va tout à coup, il va trop loin, il envahit la Russie. C'est le pas de trop.
Et, là,
et ça le tue. Et bien là, c'est le pas de trop. Il dit, il ne sait pas s'arrêter. Il dit, voilà, je vais prendre ce dernier étage, j'ai le truc, je m'incipe, je mets tout dans la balance, je mets tout ce que j'ai acquis, je le mets. Et voilà. Et finalement, il dégringole et il perd.
Non, mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'effondrement du mouvement des 5 étoiles, qui est pourtant majoritaire, qui a le plus de voix aujourd'hui au Parlement italien, et qui, de fait, de ces élections, est complètement surreprésenté par rapport aux scores qui sont minables. 4,7, 2,5. Mais moi, j'avais trouvé que ce mouvement qui a émergé comme ça, avec un leader qui s'appelait Beppe Grillo, hirsute, débraillé, truculent, Tony Tréhant, gros mangeur, gros buveur, voilà, qui se choisissent, alors qu'il n'avait jamais voulu aller au Parlement, comme leader, mais son exact contraire. Un type s'appelait Luigi Di Maio, petit costume, étriqué, petit format, petit orateur. Mais comment voulez-vous que les gens qui avaient été enthousiastes avec Beppe Grillo puissent suivre ce type qui avait l'air d'un mâle blanc? Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, moi, je trouvais que c'était logique.
Oui, mais le Premier ministre qui vient de leur rang, quasiment de leur rang.
Pas tout à fait.
Ah ben non, pas tout à fait. Non, non, non.
Il est quand même très sérieux, très costume, trois pièces et tout. Il est très populaire.
Prof de droit, il est très populaire
parce que, oui, il a un côté milanais.
Non, ce qui est intéressant, c'est que si on compare un instant les deux mouvements populistes, le mouvement La Lega, c'est un mouvement populiste d'extrême droite, relativement classique, on va dire. Alors que 5 étoiles, c'est peut-être la quintessence du mouvement populiste absolu.
Oui.
Parce que totalement anti-système, ouais. Parce que mélangeant un clown avec un génie de l'informatique qui crée un système de consultation permanente des citoyens, plein de choses originales comme ça, qui ne pouvaient pas se mettre dans le système.
Et vous voyez, Jean-François, les Italiens mettent de l'ordre, là aussi.
Ce sera le leitmotiv. Alors, il y a beaucoup d'autres sujets médias politiques dans la semaine qu'on ne peut pas les aborder tous. Il y a cette fameuse photo du président de la République à Angoulême montrant en souriant un t-shirt qui réussit à mettre contre lui à la fois les policiers et les manifestants les plus radicaux, ce qui, quand même, en termes de communication politique, est un talent d'assez haut niveau.
Je ne peux plus supporter de quoi qu'il s'agisse, hein, qu'on fasse maintenant de la polémique sur tout. Le moins petit truc, les médias, machin, le buzz, le truc, polémique, machin. Attends, il y en a marre. À la fois, on peut plus.
On a été sobre, on n'en a pas fait un grand sujet de médias politiques. Je me suis juste
permis.
Non,
pas vous. Mais sur les médias, c'est incroyable, la pression.
Ah bah oui,
on en a parlé plus que du plan pour la Palestine, à la limite.
Ah oui.
C'était ridicule.
Oui, en faire tout un tabac, c'est ridicule. Le mentionner, quand même, dans une émission qui s'appelle
Médias
Politiques.
Non, mais le mentionner, c'est normal.
D'accord.
Mais
enfin, moi, je me suis quand même dit qu'il aurait mieux fait de ne pas faire la photo.
Oui.
Sans faire de polémique. J'aurais pas fait un papier là-dessus, mais je me suis dit, c'est quand même une erreur. Quoi.
Et vous voyez, Catherine, oui, je pense que presque tout le monde pense comme vous.
Ah oui, ouais. Vous voyez.
Même,
mais vous voyez,
des proches de Macron, ça arrive que...
Oui, oui.
Non,
oui.
Mais pas que moi, je veux dire.
Non, voilà.
Je sais déjà que quand c'est rien que moi, vous êtes contente. Bon, et puis alors, évidemment, bien entendu, le Brexit. Alors le Brexit, écoutez, que vous dire, on a choisi une chanson pour y faire écho. Juste, je vous signale que prolifère au Royaume-Uni ce qu'on appelle des goodies, vous savez, c'est-à-dire des je ne sais pas comment on dit les goodies en français, c'est-à-dire des mugs, des tasses pour boire le thé, hein, des gadgets, voilà,
oui,
marqués avec Boris Johnson entouré de toute la représentation de la royauté et Brexit is done, we got it done, des nappes de thé, des trucs, ça prospère formidablement. Et nous, on a choisi de prendre la chanson qui est à l'origine de « Ce n'est qu'un au revoir », qui à l'origine est un très vieux chant écossais, mais on l'a pris dans la version du groupe de Country Home Free, parce qu'il le chante a cappella, et puis tout simplement parce que notre réalisateur, c'est Jean-Luc Arblade, c'est le plus mélomane et qui trouvait que c'était la meilleure version.
Je suis très content parce que je reviens à mes origines, étant donné que j'ai fait des émissions à Europe 1 sur la chanson.
Oui, exact.
Ah, oui. Vous aviez une érudition impressionnante.
C'était donc l'interprétation du groupe de country Home Free. La chanson dit aussi, n'est-ce pas, au jour du temps passé, amis, buvons ensemble à l'amitié et au jour du temps passé. Elle a été chantée au Parlement européen hier.
Mais tout le monde pleurait, je veux dire.
Et bon, c'est une très très vieille et très 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 belle chanson. Et peut-être
écossaise, vous avez dit ?
Écossaise,
je
à l'origine.
Pas, je ne savais pas d'origine.
Là, on a vu dans la version britannique, oui, mais à l'origine, c'était une chanson écossaise.
Je ne savais pas que c'était écossais d'origine.
Moi, je ne savais pas non plus, je l'ai découvert en préparant l'émission avec Jean-Luc Arblade, avec Capucine Patouillet, avec vous Justine, et maintenant on passe la main pour l'ami Mariotte, oui. Ceux qui veulent manger.
Ah, et en plus c'est une émission qui va tous nous aider, vous allez voir. Bonjour Laurent.
Merci Catherine Olivier, bonjour Justine. Alors ce matin on va s'intéresser avec les camarades aux tromperies sur la marchandise dans nos assiettes, du bœuf qui n'en est pas, du coq au vin sans coq, il y a des embrouilles vous allez entendre. Et puis pour prendre de la hauteur sur notre gastronomie, nous recevrons le chef Alexandre Gauthier, le chef de la Grenouillère dans le Pas-de-Calais. A tout de suite.
A tout de suite Laurent.